Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un homme, un papa qui a décidé de se consacrer son existence à son enfant et à la cause de l'autisme. On y va pour les détails.
Médien, Yasmine, version homme.
Chemseddine Belriat, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être avec moi dans la version homme de femme d'aujourd'hui.
Ben, merci beaucoup pour ton invitation.
Alors, dites-moi Chemseddine, est-ce que vous attendiez à être le papa impliqué, engagé, présent que vous êtes aujourd'hui?
Ben écoute, c'est compliqué à dire parce que en fait, tant qu'on n'a pas d'enfant, on ne sait pas quel parent on va être. Et c'était valable pour moi aussi. Et je ne savais pas non plus que la vie allait me donner un enfant donc avec des besoins différents, avec une différence. Donc non, je m'y attendais pas. Mais écoute, c'est un parcours de vie que j'ai suivi hein, tout simplement comme un destin.
Alors justement, cette différence, certains papas laissent la maman la gérer. Vous avez décidé de faire autrement.
Oui, parce que en fait, je pense que au-delà de la différence, il y a aujourd'hui un changement qui s'opère dans la société avec les papas qui sont de plus en plus présents pour les enfants dans les actes du quotidien, pour les accompagner à l'école, pour faire des sorties avec eux, etc. Et c'est important, et c'est vrai que quand un enfant aussi a des besoins spécifiques, bah, il a tout aussi besoin de son papa que de sa maman. Donc c'est important hein, de pouvoir participer à tout ça, et puis de dire haut et fort qu'au-delà de la différence, de toute façon, le fait de s'occuper des enfants n'est pas le monopole et la tâche exclusive des mamans.
Absolument, mais... Certaines femmes voient ça comme la fuite du papa, la fuite du mari, la fuite, s'inventer beaucoup d'occupations à l'extérieur pour fuir les obligations de la maison et les besoins de ses enfants, entre autres.
Oui, je pense que c'est de toute façon, après ça dépend aussi de où on est, de où on vit et comment on a choisi de vivre. Mais il y a aussi des femmes qui sont extrêmement occupées à l'extérieur et des papas qui sont plus impliqués à l'intérieur. Alors, c'est sûr que ce n'est pas du tout l'immense majorité. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a un vrai rôle du père vis-à-vis des enfants qui est important parce que, de toute façon, le modèle parental, il repose sur les deux parents. Et donc, notamment quand on a des enfants en situation de handicap, la vie est plus compliquée. Il y a encore plus de contraintes, il y a encore plus de choses à planifier. Il y a vraiment un emploi du temps qui est particulier, il y a des besoins particuliers, il y a des contraintes dans tout ce qu'on va faire qu'il faut prendre en compte. Et si un couple n'arrive pas à le faire ensemble, ça devient extrêmement dur. La charge mentale et physique est encore plus lourde pour la maman qui n'y arrivera pas, qui va s'épuiser. Et finalement, tout le monde va en pâtir, toute la famille, dont le papa le premier. C'est vrai que c'est extrêmement important de pouvoir partager et de pouvoir aller ensemble sur un même chemin dans l'éducation et l'accompagnement de tous les enfants, mais des enfants en situation de handicap en particulier.
Alors, en parlant de couple, justement, est-ce que cette situation-là, le fait d'avoir un enfant différent, est-ce que c'est un élément qui vient, en quelque sorte, perturber la vie à deux, la vie amoureuse?
Je pense que oui, parce que de toute façon, toute difficulté, toute chose qui sort, on va dire, des éléments et des événements ordinaires d'une vie de famille, d'une vie de couple, vient perturber cette vie de famille et cette vie de couple. Et après, il y a vraiment plusieurs façons de le prendre, et pour moi, deux principalement. La première, c'est d'en faire une force, hein, de voir comment justement, à travers la difficulté, à travers la contrainte, on peut s'unir pour réussir. Et la deuxième, bah, c'est d'en faire une contrainte qui va faire en sorte que le reste n'est pas possible, qui crée souvent effectivement des divorces, des séparations familiales importantes, etc. Mmh. Je dirais pas qu'il y a l'une est meilleure que l'autre, même si évidemment il faut réussir à en faire une force, mais tout dépend aussi de l'histoire des personnes et de plein de choses. C'est pas facile. Tu peux pas dire à quelqu'un du jour au lendemain, c'est pas grave, ton enfant est en situation de handicap, mais c'est une force, vas-y. Parce que la personne, elle peut te répondre, viens vivre mon quotidien, viens faire ce que j'ai à faire, et tu verras que c'est plus compliqué que ça. Donc c'est vrai que aujourd'hui, je peux pas généraliser, mais pour moi, si un couple arrive à en faire une force, il va s'en sortir plus fort dans son équilibre de couple, dans son équilibre familial, voire dans sa relation. Mais c'est extrêmement compliqué à faire.
Mais comment on peut réussir à en faire une force, justement ?
Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, si je parle pour moi, il faut réussir à voir ça comme un élément qui va changer ta vie, la bouleverser, mais pas forcément d'une façon négative, de changer son regard sur la vie, de changer son regard sur les nécessités fondamentales, de changer son regard sur ce qu'on doit faire, ce qu'on doit avoir, la façon dont on doit travailler. C'est vraiment un changement complet, une introspection totale à partir d'un élément qu'on n'avait pas prévu. Moi, je n'avais pas prévu, à partir du fait d'avoir un enfant en situation de handicap, de changer ma carrière professionnelle, de ne plus être officier dans l'armée de terre, de ne plus voir les choses de la même façon, de m'impliquer de cette façon-là au niveau, on va dire, associatif et de la société, etc. Mais j'en suis pas moins heureux. Si je fais le bilan aujourd'hui par rapport à ce que j'aurais pu être ou faire avant d'avoir mon enfant en situation de handicap, je dirais pas que je suis moins heureux, et au contraire, je me sens accompli comme personne parce que je fais ça. Et je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas eu mon enfant, justement.
Absolument, absolument. C'est cet enfant, en fait, qui est venu vous guider sur le chemin à vivre. Parce que quand on est dans l'armée comme vous, vous avez été dans l'armée, l'armée, ça devient sa famille, ça devient sa raison de vivre. Et tout est tracé, tout est millimétré, calibré, tout est connu à l'avance. Et là, avec lui, ça a été une autre découverte de la vie, d'une autre vie, en fait.
Ouais, c'est tout à fait ça, Yasmine. C'est un autre chemin qu'on emprunte et qui nous fait découvrir des choses, mais qui n'est pas moins bien. Je ne peux pas dire que c'est mieux, parce que je n'aime pas émettre des jugements sur des choses, mais en tout cas, moi, je n'en suis pas moins accompli dans ce que je réalise au quotidien.
Il y a aussi une bataille que vous menez, c'est celle de l'inclusion. Vous avez envie que votre enfant aille à l'école et soit accepté à l'école. C'est compliqué, ça ?
C'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué parce que aujourd'hui, il y a différentes visions de la société qui s'affrontent. Faire une place aux enfants différents, aux enfants avec des besoins différents, qui peuvent être des besoins très différents des autres, c'est s'adapter et créer un groupe homogène avec des besoins très différents, ce qui nécessite des compétences, une vision des choses et une envie. Et mettre les trois ensemble, c'est souvent très compliqué. Il y a des gens qui ont envie et qui ont la bonne vision, mais qui n'ont pas forcément les formations et les compétences pour le faire. Il y a des gens qui vont avoir des compétences et des formations, mais pour lesquelles la vision ne correspond pas. Et au milieu de tout ça, il y a les enfants. Et il y a donc des familles qui sont là avec leurs enfants, qui y croient, qui ont envie. Il y a des professionnels qui sont là, qui font un métier et qui, eux, le rappellent souvent aussi, c'est un métier. Hein. C'est pas un engagement familial, ça reste un métier. Et puis, il y a la société, globalement, avec ce qu'elle peut apporter et ce qu'elle peut créer comme lien entre les différentes personnes et notamment les personnes avec des différences. Et donc, faire en sorte que tout ça puisse concorder, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est compliqué et il faut toujours essayer de se mettre à la place de l'autre quand l'autre est en difficulté. Et ça, tout le monde n'arrive pas à le faire. Donc, un parent doit se mettre à la place, effectivement, des enseignants, des personnes de l'école, des autres parents, des autres enfants, etc. Mais ces personnes-là doivent aussi se mettre à la place des parents, et tout le monde doit se mettre à la place de l'enfant. Parce que l'enfant, au cœur de tout ça, lui, Absolument. Il n'a rien demandé. Il n'a pas demandé à être différent, il n'a pas demandé à réagir comme ça. Et s'il réagit comme ça, c'est que ça vient montrer, ça vient démontrer qu'il y a des choses qui sont difficiles pour lui. Donc, qu'est-ce qu'on fait autour de tout ça? Et c'est une réflexion qui implique tellement de personnes avec tellement de visions différentes que c'est compliqué. Alors, on y croit, on se bat pour, on essaye de faire bouger les lignes à notre niveau, mais ça reste quelque chose d'extrêmement compliqué.
Et vous, dans tout ça, l'homme que vous êtes aujourd'hui, alors vous avez changé de carrière, vous avez orienté votre vie professionnelle et votre quotidien autour de l'handicap de votre enfant, vous en faites votre mission de vie aujourd'hui. Mais au fond de vous, Shamseddin Belriat, qui prend soin de lui?
Ah, c'est une super bonne question. je pense que dans tout ça, en tout cas, ce que je ressens aujourd'hui, c'est que tout ça, ça participe au fait de prendre soin de moi parce que je suis la personne que je dois être. Et si j'étais pas tout ça, si j'essayais d'être quelqu'un d'autre, si j'essayais de faire d'autres choses, je serais moins accompli et du coup, je serais pas la même personne. Donc, j'aurais déjà moins de satisfaction personnelle à faire ce que j'ai à faire. Et ensuite, j'ai aussi de la famille, j'ai des amis, j'ai des gens qui souvent m'aident, m'accompagnent dans mes réflexions, m'aident aussi parfois à prendre du recul personnellement ou à prendre un peu plus de, on va dire des fois un peu de repos, même si c'est compliqué parce qu'on est dans un milieu où on est toujours sollicité. Pendant les vacances scolaires, par exemple, c'est là où les familles sont le plus en difficulté. À un moment donné, elles vont avoir besoin d'aide, d'écrire un message, d'appeler, de voir qu'est-ce qu'elles peuvent faire, etc. On reste toujours, il y a quand même toujours une sorte de veille. Mais j'ai quand même un réseau familial et personnel qui m'accompagne et qui m'aide. Et puis après, ce qui m'aide le plus, c'est d'être qui je dois être, tout simplement.
Et la maman dans tout ça, elle est où?
Eh bien, la maman, elle a un quotidien extrêmement chargé, puisque déjà, elle participe aussi à toutes les actions. C'est même elle qui a été la fondatrice de l'idée et de l'association qu'on a créée. Et puis, elle a beaucoup de travail au quotidien aussi avec les enfants, quand moi, je pars en déplacement. Elle a la gestion seule de toute la famille, de tous les enfants, les contraintes de l'emploi du temps de mon fils Daniel pèsent beaucoup sur elle, parce que moi souvent la journée, j'ai aussi des missions, je travaille, etc. Donc non, elle a un quotidien bien chargé.
Bien chargé. Est-ce que justement quand on a un enfant à besoin spécifique, est-ce qu'on a peur d'en faire d'autres?
Je pense que c'est une question qui se pose, notamment pour deux raisons. Parce que la première, c'est qu'on sait très bien, c'est comme quand on a un, deux enfants et qu'on se dit, je ne sais pas si je ferai le troisième, parce qu'on sait très bien que c'est, on voit déjà que c'est bien assez compliqué avec deux enfants, avec tout ce qu'il y a à gérer, etc. Et là, il y a la question qui se pose, c'est de dire, déjà d'une part, je suis déjà bien occupé à faire tout ce que j'ai à faire pour le bien de cet enfant. Est-ce que je pourrais rajouter des charges, rajouter des contraintes et me dire est-ce que je pourrais prendre soin de la même façon d'un autre enfant. Il y a aussi souvent la peur de dire, notamment dans le cas où il y a des facteurs génétiques qui entrent en jeu, et si c'est encore un enfant qui a des besoins spécifiques, est-ce que j'y arriverai parce que la charge sera encore plus lourde. Donc il y a toutes ces questions qui se posent et qui sont largement compréhensibles. Maintenant, je pense que les gens doivent vraiment répondre à leur instinct et leur envie. Si une famille demain a déjà, on va dire, un enfant autiste ou un enfant avec une trisomie et a envie d'avoir d'autres enfants et qu'ils se sentent capables de le faire, il faut qu'ils le fassent. Et ceux qui se poseraient des questions diront non, on n'y arrivera pas. Et j'en connais plein des familles comme ça qui ont eu un enfant en situation de handicap et qui ont arrêté là parce qu'ils ne se sentaient pas de pouvoir s'occuper d'autres enfants. Il faut également qu'ils puissent faire confiance à leur instinct et s'arrêter là.
Est-ce que parfois, vous avez envie et vous arrivez à prendre des moments pour vous, tout seul, et des moments de couple?
Ça arrive assez rarement, il faut le dire. Des moments tout seul, oui, j'y arrive, sur sur des petits temps, hein, c'est pas des semaines entières, mais sur des petits temps, sur des activités, aller voir des amis ou aller faire une séance de sport ou quelque chose comme ça, ça j'y arrive. En couple, c'est plus compliqué parce que forcément, ça veut dire que d'autres personnes vont devoir s'occuper des trois enfants et dont Daniel, hein, qui a quand même des besoins importants dans son trouble du spectre de l'autisme. Ça arrive plus rarement, mais ça arrive. En tout cas, c'est à provoquer soi-même, hein, sinon ça n'arrivera pas. Mm. C'est vrai, c'est très rare que spontanément, des gens vont arriver en disant bah, « c'est bon, on a tout prévu, vous partez tous les deux et puis nous, on s'occupe de tout ». Non, c'est dans les films. Dans la vraie vie, si vous voulez avoir des moments pour vous, si vous voulez avoir des moments de couple, il faut le provoquer. Voilà. Il faut le travailler, voir et s'organiser, créer un vrai petit emploi du temps de ministre et puis se créer les moments libres.
Vous aimeriez qu'on pense à vous comme ça, justement ?
Je me suis jamais posé la question. Oui, je pense que oui. Je pense que c'est toujours agréable de se dire que des fois, vous savez, quand on porte beaucoup de choses, quand on est quelqu'un d'actif, quand on est régulièrement prêt à aider les gens et à proposer son aide, etc., on a tendance aussi à oublier que nous-mêmes, on peut avoir besoin de cette aide, d'accompagnement, de choses, hein, toutes simples. Et donc, c'est vrai que j'ai certainement eu tendance à oublier que moi aussi, je pouvais en bénéficier. Mais oui, je pense que c'est agréable.
Alors, j'aimerais qu'on revienne sur le changement de cap professionnel, parce que vous avez passé de nombreuses années au sein de l'armée. Ensuite, vous avez quitté pour prendre soin de votre enfant et vous vous êtes formé, justement, à l'accompagnement des autres. Donc, pendant une période, vous êtes revenu sur les bancs de l'école en ayant un enfant à besoin spécifique, en ayant d'autres enfants aussi. En ayant des charges, en ayant des factures à payer. À un moment, c'était ça ?
Oui, c'était un peu ça, sachant que j'ai pu bénéficier d'un accompagnement au départ de mon institution militaire qui m'a permis d'avoir un certain nombre de temps pour pouvoir faire les formations dont j'avais besoin. Et tout en gardant une rémunération, ce qui m'a permis finalement, quand je suis arrivé finalement au moment d'être prêt à commencer ma nouvelle fonction et mon nouveau métier. Après, c'est par contre, il y a tout à construire quand on se lance.
Un réseau, exactement, absolument.
Exactement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, vous n'avez pas du jour au lendemain. Avec un pléthore de clients qui vous sollicitent. Non, il faut avoir une notoriété, une crédibilité, des services, des prestations qui sont identifiées et connues pour la qualité que ça va apporter. On est dans un milieu compliqué parce que se dire qu'on travaille dans le handicap, au profit des personnes en situation de handicap et des familles, eh ben, c'est un métier qui est très empreint par le bénévolat.
Absolument.
Associatif, etc., ce que je fais aussi par ailleurs. Mais du coup, certaines mêmes entreprises ne sont pas prêtes forcément à payer pour ce type de prestations ou d'accompagnement. Ils sont très contents d'avoir des formations, des sensibilisations, des accompagnements de leurs collaborateurs, etc. Mais ils pensent que c'est un service qui est essentiellement issu du monde associatif et bénévole. Mais non. Et même dans le monde associatif et bénévole, les associations qui font ça ont besoin d'un retour financier pour pouvoir continuer justement à effectuer leur action associative. L'économie dite sociale et solidaire est une vraie économie.
Hein. Il y a de l'argent, oui, absolument.
Ouais. Et elle ne peut pas se permettre d'être une économie essentiellement fondée sur le bénévolat parce que sinon ça s'effondre. Et les services qui sont rendus ne seront plus rendus parce que les personnes s'épuisent. Donc c'est une vraie économie et ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte, c'est que c'est un secteur dans lequel il est nécessaire d'investir et d'investir comme on investit dans une économie tout simplement normalement avec un objectif, hein, de pouvoir atteindre une rentabilité économique et de pouvoir faire en sorte que les activités utiles puissent subsister.
Chamsdine Belriet, merci infiniment d'avoir été ma version homme de femme d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet échange.
Merci beaucoup Yasmine, c'était un grand plaisir. Merci.
Merci à tous pour votre confiance, pour ce partage en toute humanité, sans langue de bois et en toute confiance, dans ce rendez-vous masculin sur Média 1 et bien sûr en avant-première sur Média 1 Podcast. N'oubliez pas d'ailleurs de vous y abonner via l'application Média 1 Podcast ou sur les plateformes de podcast habituelles.